10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis sur Beurre FM de 10h à midi pour l'émission Les Engagés. Je suis, comme toutes les semaines, entouré de ma team, Zora à la réalisation, Lou Pineda et Fodil Belhamri, les deux journalistes qui m'accompagnent, qui préparent cette émission avec moi, mais qui sont aussi à l'antenne. Donc, et d'ailleurs, Fodil, je vais très vite te donner la parole parce qu'on a deux débats très importants et très riches aujourd'hui, comme toutes les semaines. Est-ce que tu peux nous donner le programme des émissions, de l'émission Les Engagés ?
Eh bien, mon cher Karim, la semaine a été riche en actualités, dont le programme des Engagés. Nous aurions pu retenir le plan de sobriété présenté en conférence de presse par Elisabeth Borne hier, dans laquelle elle a exposé une dizaine de mesures économiques. L'objectif du gouvernement est de réduire notre consommation d'énergie de 10% dans les prochaines années. Nous aurions pu également aborder le sujet de l'assurance chômage. Malgré l'opposition de la gauche et du Rassemblement national, les députés ont voté en faveur d'un article permettant au gouvernement d'édicter de nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs. Finalement, nous avons souhaité aborder un sujet aussi incontournable qu'explosif, qui sera d'ailleurs à l'ordre du jour des débats parlementaires prochainement. C'est la réforme des retraites, avec comme intitulé de débat aujourd'hui, la réforme des retraites est-elle réellement nécessaire et juste socialement ?
Ah oui, je pense que tu as utilisé un terme qui convient tout à fait à ce débat, c'est explosif. Nos compatriotes s'interrogent effectivement à quelle sauce ils vont être mangés avec cette réforme dont on parle depuis des années finalement, et qui est toujours remise au calendrier grec. Et là, on a l'impression que le gouvernement, quitte à passer en force, veut réformer les retraites. Et le débat des engagés, Fodil, il portera sur quel sujet aujourd'hui ?
Eh bien, nous allons aborder un sujet très sensible qui nous tient à cœur et qui tient à cœur l'actualité actuellement. C'est la situation des femmes en Iran. Ces dernières manifestent un courage héroïque depuis plusieurs semaines pour leur liberté. Nous aurons l'occasion, mon cher Karim, d'en débattre avec nos invités, nos chers auditeurs, comme le faisons chaque semaine. La question que nous nous poserons aujourd'hui, comment la France peut-elle soutenir le combat pour la liberté des femmes iraniennes ?
Merci, Fodil. Effectivement, vous savez que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur sur Beurre FM, le combat héroïque que les femmes iraniennes mènent pour la liberté, pour l'égalité. Donc nous en parlerons avec des invités qui connaissent très très bien l'Iran, et pour cause, ce sont des Iraniens et Iraniennes qui seront avec nous en plateau. Lou, ma chère Lou Pineda, qui est avec nous comme toutes les semaines et qui va nous poser les termes de ce premier débat sur les retraites. Qu'est-ce qu'on peut dire, Lou, sur ce débat assez explosif ?
Eh bien, écoutez, Karim, ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, la réforme des retraites est un des piliers du programme de campagne d'Emmanuel Macron. Ça reste un dossier politique très sensible. Chaque point de la réforme prête à débat et à controverse au sein de l'hémicycle. Régime de retraite de la fonction publique, carrière longue, inégalité liée au compte de pénibilité, revalorisation annuelle, âge effectif du départ à la retraite ou encore allongement de la durée des cotisations. Le débat reste entier et ouvert. Une réforme que l'exécutif compte présenter avant l'hiver, a fait savoir la première ministre Elisabeth Borne. Mais, 4 mois après les élections législatives où le président de la République n'a obtenu qu'une majorité relative avec 250 députés, la patience de l'exécutif connaît ses premières limites. Sans majorité absolue, Emmanuel Macron serait prêt à dissoudre l'Assemblée nationale en cas d'adoption d'une motion de censure contre le gouvernement. Le recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui permet l'adoption d'un texte sans vote, pourrait même être envisagé pour faire passer le projet de loi sur les retraites. Une réforme qui s'annonce donc très compliquée à mettre en œuvre, et c'est pour cela qu'on en débat aujourd'hui en se posant la question de savoir si cette réforme est utile et juste. Et n'oubliez pas que l'on attend votre avis sur ce sujet au 01 53 48 3000.
Merci Lou. 01 53 48 3000. Les auditrices et les auditeurs de Beurre FM peuvent participer, comme vous le savez, toutes les semaines à notre émission, à nos débats, en témoignant, nous donnant votre avis. N'hésitez pas à composer ce numéro qui vous permet de rentrer dans le débat avec nous. Alors, c'est vrai que le contexte que Lou Pineda vient de dresser est quand même assez particulier. On a un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue, qui n'a qu'une majorité relative. On a des débats qui sont assez explosifs avec des sujets dits de réforme. Moi, je suis toujours perplexe sur ce thème parce que pour moi, réforme veut dire progrès. Et on a souvent le sentiment que les réformes dans notre pays, elles enlèvent des acquis puisqu'elles n'en octroient. Et derrière, on a la menace du 49.3 et de la dissolution. Ça fait quand même beaucoup pour notre belle démocratie. Alors aujourd'hui, pour évoquer ce débat des retraites, il nous fallait un économiste. Un économiste qui connaît le sujet et qui a réfléchi, non pas tout seul, mais avec d'autres collègues, si je puis dire, chercheurs, universitaires, économistes, à ce sujet. On a Henri Sterdignac qui est avec nous aujourd'hui, qui est économiste et membre fondateur du collectif Les Économistes Atterrés. Alors je précise, c'est une association qui a été créée en 2011, Les Économistes Atterrés, composée de chercheurs, d'universitaires, et qui se définit, quand on va sur internet pour regarder effectivement qu'est-ce que c'est les économistes atterrés, comme étant opposés à l'orthodoxie néolibérale. Donc c'est ce qui résume, j'ai envie de dire, un peu la posture et la démarche de ces économistes. Bonjour Henri Sterdignac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux de vous avoir sur le plateau de Beurre FM pour évoquer un sujet qui est complexe quand même dans l'esprit des Français, parce qu'on entend tout et son contraire sur cette question des retraites. Certains prétendent que il faut faire une réforme, c'est urgent si on veut sauver notre système par répartition. D'autres nous indiquent qu'il n'y a pas d'urgence. Finalement, on peut être à l'équilibre sur cette, je dirais, cette approche qui est la nôtre des cotisations des salariés pour assurer les retraites de nos anciens et des seniors. D'autres indiquent que c'est pour équilibrer un budget qui serait en déficit, et on a même eu au sein de ce gouvernement des postures très contradictoires. D'emblée, quand je vous dis réforme des retraites, vous me dites quoi ? Nécessaire, utile ou pas vraiment ?
Je peux vous faire deux réponses contrastées. D'abord, on a un système par répartition dans lequel les cotisations des salariés payent les retraites des retraités. Donc le système, grosso modo, il n'y a pas à s'affoler, il peut toujours être équilibré en augmentant, si nécessaire, les cotisations. Il n'y a pas de risque d'effondrement du système. Il est normal que de temps en temps, on révise les paramètres du système pour équilibrer, pour en discuter démocratiquement. Donc oui, on peut discuter périodiquement des réformes des retraites, c'est pas des vraies réformes, c'est simplement de l'adaptation. Et ensuite, il n'y a pas d'urgence, le système est équilibré.
Jusqu'à quand, Henri Sterdignac, qu'il est équilibré?
Le système est équilibré cette année, il sera excédentaire l'année prochaine, 2-3 milliards, ce qui est quand même satisfaisant. Et après, selon les prévisions, ça dépend de l'évolution de l'activité, ça dépend aussi de l'évolution des salaires, en particulier des salaires des fonctionnaires et des effectifs de fonctionnaires. Ce qu'on peut dire, c'est que selon les prévisions du corps et selon les différentes hypothèses, on va avoir un léger déficit entre 0,3% et 1% du PIB dans les années à venir. C'est pas tragique. Le tout, c'est que le gouvernement ne veut absolument pas augmenter les taux de cotisation. Et donc, mais faut pas dramatiser une situation, quand on dit en 2035 on aura un déficit de 0,5 point du PIB, il faut se rappeler qu'aujourd'hui on a un déficit public de 5 points du PIB et on vit très bien.
Donc le corps, je précise, c'est la commission d'orientation des retraites qui est rattaché au Premier ministre.
Qui est rattaché au Premier ministre et donc qui fait chaque année une des prévisions de l'évolution des retraites jusqu'en 2070, ce qui est bien sûr assez comique quand on y réfléchit.
Donc, vous nous dites le système est aujourd'hui équilibré. Il le sera la semaine prochaine et plus encore, puisque on sera bénéficiaire. Mais quand on est en responsabilité politique, Henri Sterdignac, on doit quand même porter une démarche prospective, assurer l'avenir d'une nation, d'une communauté nationale, d'un système, en l'occurrence. Ça vous paraît complètement farfelu aujourd'hui, non pas d'ajuster, comme vous l'avez évoqué, mais de réformer le système tel que le présente le gouvernement? Pour vous, c'est quoi? On est dans l'idéologie?
Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 5 ans, le président Macron avait été élu avec l'idée « on va réformer les retraites », c'est-à-dire modifier complètement le système, passer un système unique pour tous les Français, un système qui serait géré par l'État, un système à points. Ça s'est heurté à une très grande opposition d'un grand nombre de secteurs économiques, pas seulement les salariés, mais surtout aussi les non-salariés. Ça posait des tas de problèmes, notamment pour les enseignants. Et donc, le gouvernement a renoncé à réformer les retraites. Et là, on est simplement à des ajustements, passer de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. On peut pas dire que c'est une réforme, hein, c'est un tout petit ajustement. On n'est pas aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui, n'est pas en mesure de présenter une réforme des retraites dans lequel on remettrait tout sur la table. On est vraiment à des petits ajustements.
On va y revenir, mais vous semblez nous dire aujourd'hui 62, demain 64, finalement c'est pas grand chose, mais quand même 2 ans pour quelqu'un qui souffre au boulot et qui attend impatiemment l'âge de la retraite, c'est pas rien 2 années
non,
d'une
c'est
vie.
C'est pas rien, mais c'est pour ça qu'on peut pas, on peut difficilement dire c'est une grande réforme des retraites. Hein, la grande réforme des retraites, ça serait quand même de prendre en compte de façon sérieuse la pénibilité, les différences d'espérance de vie selon la carrière. Et là, si simplement le gouvernement fait voter, on passe de 62 à 64 ans, c'est pas une grande réforme, c'est un truc assez minable parce que on s'attaque, comme vous savez, non pas au cadre, parce que la plupart des cadres ont fait des longues études, donc ils commencent à travailler à 23 ans. La durée de cotisation requise, ça va être 43 ans. Donc, pour les cadres, 23 plus 43, ça fait 66 ans. Donc, la plupart des cadres, ils vont travailler jusqu'à 66 ans. Les médecins, jusqu'à 68 ans. Mais c'est pas un problème pour eux parce qu'ils sont capables de travailler jusqu'à cet âge. Le problème, c'est effectivement...
Les salariés, les ouvriers, les employés.
À travailler tôt, qui, eux, peuvent pas aller jusqu'à 64 ans.
Ok. On va donner quand même quelques chiffres. D'ailleurs, l'âge moyen de départ à la retraite en 2021 dans notre pays, c'est 63 ans. Donc, c'est ce que disent toutes les statistiques. Ceux qui partent avec une retraite anticipée, c'est 62,8 ans. Donc, ça veut dire quand même qu'on part déjà au-delà des 60 ans, qui est l'âge légal de départ à la retraite.
L'âge légal, c'est 62. Hein.
Donc, c'est 62, mais oui. C'est pas lié aux années de versement.
Il y a deux paramètres. Vous pouvez partir à partir de 62 ans si vous avez fait une carrière normale. Vous pouvez partir à 60 ans si vous avez commencé très tôt à travailler, avant 20 ans. Et pour avoir une retraite à taux plein, il faut avoir travaillé cotisé pendant 42 années. Et donc, si vous commencez à travailler à 20 ans, vous partez à 62 ans avec une retraite à taux plein. Si vous avez commencé à travailler à 23 ans, eh ben, vous pouvez pas partir avant 65 ans. C'est déjà le cas actuellement. Il faut savoir aussi, qu'il y a un certain nombre de femmes qui ne prennent pas leur retraite avant 67 ans. Parce que c'est à 67 ans que, de toute façon, vous avez la retraite à taux plein. Ça signifie pas pour autant qu'elle travaille. Hein, si. Il y a des couples, le monsieur a une retraite satisfaisante, la dame, elle attend 67 ans, parce qu'à 67 ans, elle a une retraite plus élevée que si elle liquidait sa retraite à 62 ans, mais ça signifie pas qu'elle travaille entre 62 et 67 ans.
Bon, c'est parfois un peu complexe ces questions de retraite, parce que 42 ans de versement, 62 ans l'âge légal de départ au moment où nous parlons, on a 16,7 millions de retraités dans notre pays, on a 29 millions d'actifs, je rappelle qu'on a 2,4 millions chômeurs dans notre pays, et on a 550 000 chômeurs de plus de 50 ans, ce qui fait quand même quasiment plus de 20%. On reviendra sur cette question de l'emploi des seniors, parce que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, à ce titre, je vais vous faire écouter un son de qui ? Ben de notre président de la République, en 2019, c'est pas vieux 2019, c'est il y a 3 ans, qui nous disait...
Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Délai légal. Ce serait hypocrite.
Vous vous rendez compte? C'est compliqué, la politique aujourd'hui.
Oui, c'est compliqué.
Il y a 3 ans, le président semble nous dire le contraire de ce qu'il veut faire aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, Henri Serdignac?
Parce que la vraie question, c'est la carrière des gens. Hein, la vraie question, c'est comment faire pour que les gens restent au travail jusqu'à 62 ans avec plaisir et avec une capacité effectivement de travail. Et donc ça suppose, si on était sérieux, de dire il faut se mobiliser au niveau des entreprises, il faut réfléchir aux carrières et se dire comment faire pour que effectivement tout le monde puisse aller jusqu'à 62 ans. Ça veut dire que si vous avez une carrière, un boulot pénible, vous le faites de 20 ans à 40 ans, et à 40 ans vous êtes reconverti, vous êtes plus conducteur de bus mais vous êtes gestionnaire d'une station de bus. Voilà, et donc c'est au niveau des entreprises que ça se joue. Donc de temps en temps, le président de la République peut renvoyer la balle aux entreprises, et puis là, faire passer de 62 à 64 ans, comme on l'a déjà dit, ça frappe pas les cadres, ça frappe
toujours les mêmes,
les ouvriers et les employés, et également.
On va y revenir, Henri Serdignac, et on va y revenir avec une députée de la majorité, mais aussi une députée de l'opposition, de la NUPES. Elles seront, ces deux députées, avec nous en ligne. On prendra aussi des auditeurs, ça commence à chauffer au 01 53 48 3000. Petite pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Les engagés reviennent dans un instant. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30. Pouvoir d'achat, emploi, santé, sécurité, éducation. Ne manquez pas le meilleur de l'actualité décryptée et débattue. Les informés, présentés par Adil Farkan, tous les jours de 18h à 19h30 sur Beurre FM. 10h midi. Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour dans Les engagés pour poursuivre notre débat sur la réforme des retraites. Est-elle nécessaire? Et juste socialement, cette réforme? C'est la question que nous nous posons ce matin avec Henri Serdignac, qui est économiste et membre fondateur du collectif Les Économistes Atterrés, association qui a été créée en 2011, composée de chercheurs, d'universitaires, d'économistes qui sont opposés à l'orthodoxie néolibérale. Nous avons aussi en ligne Raquel Garrido, qui est députée de la NUPES. Donc Raquel Garrido, qui est une femme combative, on le sait, sur le terrain social, qui est avocate de métier et qui a toujours milité pour plus de justice sociale. Donc elle va nous dire dans un instant ce qu'elle pense de cette réforme des retraites. On a Zaki qui nous appelle de Vitry-sur-Seine. Zaki, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis très content de vous avoir en ligne. J'aime beaucoup intervenir sur Beurre FM. Et là, je voulais revenir sur le sujet des retraites, parce que moi, en tant que citoyen, je trouve ça quand même ahurissant, cette réforme des retraites, parce que on n'est pas du tout dans le plein emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de jeunes qui attendent, et on dit, on va faire travailler les personnes qui sont âgées, qui ont déjà beaucoup travaillé, on leur dit, on va vous faire travailler plus. C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Les gens qui ont travaillé, qui veulent aller se reposer, profiter de leurs petits-enfants, profiter de ce qu'il leur reste comme temps, parce que les maladies vont arriver et tout, on les en empêche, on leur dit qu'il faut travailler. Et les jeunes qui sont là, qui ont l'énergie, qui ont envie de construire la France, envie de travailler, de construire leur vie, on leur dit non, restez au chômage, parce que la place, elle n'est pas encore libre. Donc, je trouve ça ahurissant. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est les valeurs qu'on a dans notre pays. Il faut savoir que l'argent, le travail, c'est des valeurs. Nous, on est construit, tous les anthropologues et les psychologues vous le diront, on a un système de récompense. C'est-à-dire que quand on travaille, on veut qu'à la fin, avoir un salaire pour pouvoir vivre, s'amuser. Vous, Monsieur Zeribi, vous parlez souvent de votre mère qui est soignante. Quand vous travaillez, vous gagnez votre argent. Je suis sûr que ça vous fait plaisir d'offrir quelque chose à votre mère, etc. Tous, on a envie de sortir avec sa femme, de faire plaisir à ses enfants. Aujourd'hui, le travail ne paye plus. Déjà, quand on travaille, c'est pas que les gens ont du mal à travailler, parce que si on travaille tout le mois et à la fin on n'arrive pas à s'en sortir, on ne peut pas payer son loyer, on ne peut pas payer sa voiture, déjà là il y a un gros problème. Et maintenant, à ceux-là, au lieu de résoudre ce problème, on veut rallonger la retraite, c'est-à-dire non seulement quand on travaille, on n'est pas encombré par le salaire, mais en plus on va travailler toute notre vie, peut-être qu'on ne verra jamais de retraite, on ne pourra jamais en profiter.
Zaki,
bref, il n'y a plus de vie.
Vous faites quoi dans la vie ?
Moi je suis manager d'équipe.
Vous avez quel âge ?
J'ai 40 ans.
Et vous vous imaginez partir à 64, 65 ans ?
C'est même pas que j'imagine. Aujourd'hui, les gens, et même s'il y a un débat, ils n'y croient plus. C'est pour ça que les gens sont en train d'investir dans l'immobilier, dans le bitcoin et tout, parce qu'ils n'y croient déjà plus à la retraite. Et ils croient que ça va passer de force. Et effectivement, on sait très bien qu'il va y avoir des débats. Là, Madame Guérido va intervenir, qui défend les travailleurs, etc. Mais on sait qu'au final, ils vont passer en force. Aujourd'hui, il y a le 49-3, il y a la dissolution de l'Assemblée qui nous dit si ça passe pas. On voit bien que les valeurs, au début de l'émission, M. Zeribi, vous avez dit que vous avez un problème avec le mot réforme, parce que vous avez l'impression qu'on recule.
Et bah pour moi, la réforme, elle est synonyme de régression depuis des décennies dans le pays. On nous dit qu'il faut réformer, à chaque fois derrière, ça veut dire on va rogner sur vos acquis et on va faire des économies budgétaires. La réforme, on remet jamais l'humain au centre.
Exactement.
Pour moi, il faut mettre l'humain au centre.
Exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la réforme, nous, on voudrait que ce soit une progression. Ça veut dire qu'on ne change pas pour
exactement
changer, on change pour s'améliorer. Alors
exactement
que là, on a l'impression qu'on change pour reculer.
Exactement.
Et ça, c'est juste, et je vous rends l'antenne, je trouve ça très très grave, parce que si jamais on continue à casser la valeur du travail, la valeur de l'argent, et qu'on empêche les gens de vivre, de profiter de leur vie, vous savez, il y a beaucoup de gens qui meurent au travail ou qui meurent juste après le travail. Si les gens comprennent que jamais plus ils pourront profiter de leurs petits-enfants et tout, là on va avoir une vraie crise dans la société.
Votre témoignage est très complet. Merci d'avoir composé le 01 53 48 3000. Vous avez quasiment balayé le spectre des inquiétudes et des interrogations des Français. Zaki, merci d'être fidèle à Beurre FM et à l'émission Les Engagés en particulier. Restez connectés parce qu'on va avoir Raquel Derrido, je le disais dans un instant, on va avoir Alexandre qui est coiffeur aussi, qui va nous parler de la pénibilité. Et puis là, je voudrais que Prisca Thévenot, députée Renaissance, c'est-à-dire la majorité présidentielle, qui vient d'entendre vos propos, je voudrais la faire réagir, Prisca Thévenot. Prisca Thévenot, donc, elle est courageuse, elle intervient souvent sur des sujets compliqués et complexes que le gouvernement veut mettre en œuvre. Sur cette question des retraites, Prisca Thévenot, bonjour.
Bonjour.
Merci Prisca d'être avec nous, députée Renaissance. Vous avez entendu Zaki de Vitry-sur-Seine. Vous avez certainement entendu notre économiste sur le plateau qui nous dit finalement cette réforme, elle n'est pas nécessaire. Le système par répartition y tient. Il est en équilibre. On pourrait éventuellement travailler sur les ressources humaines, l'accompagnement des seniors dans l'emploi. Mais faire partir les Françaises et les Français plus tard, est-ce que c'est bien raisonnable, Prisca ?
Alors, plusieurs points. Effectivement, sur le sujet économique, je pense que c'est pas le sujet. C'est pas comme ça qu'il faut l'angler. Il faut surtout regarder l'enjeu démographique. Je suis désolée, j'ai un retour chez vous. J'arrive pas à parler.
Nous, on vous entend très bien, Prisca. Allez-y.
Je suis en écho.
On vous entend très bien.
Bon, ben, moi, je m'entends pas. J'entends rien.
Bon. On va essayer de vous reprendre. On a un petit incident technique. Raquel Garrido.
Allô ?
Bonjour Raquel.
Bonjour Karim.
Ça fait plaisir de vous avoir l'antenne de Beurre FM dans Les Engagés. On évoquait la question de la justice sociale, l'inquiétude des Français face à cette réforme des retraites qui pointe son nez au Parlement. La députée NUPES que vous êtes, qu'est-ce qu'elle en dit de cette réforme ?
Ouais, d'abord Karim Zeribi, je voudrais vous saluer et vous remercier de m'inviter sur Beurre FM. Je n'avais pas encore écouté votre émission Les Engagés. Je l'écoute là depuis 10 heures et c'est vachement bien.
Merci Raquel.
Et, moi qui ai travaillé avec vous sur C8 et je vous ai vu comme animateur, j'ai toujours trouvé que vous étiez un animateur exceptionnel. Et là, je le confirme ce matin en écoutant votre émission.
C'est gentil Raquel. Merci beaucoup. Alors la députée Raquel Garrido, que je connais,
oui,
sur la justice sociale, cette réforme des retraites. Vous êtes vent debout, vous trouvez qu'elle est injuste ?
Oui. Non, mais c'est une provocation. C'est une provocation contre les Français qui, je le rappelle, sont en conflit avec leur président à propos de la question des retraites depuis 15 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà, Nicolas Sarkozy, lors de son élection en 2007, avait promis durant la campagne électorale qu'il ne toucherait pas à la retraite à 60 ans.
C'est vrai.
Et puis, il y avait eu une énorme mobilisation en France en 2010 avec des millions de personnes en grève. Et dans ces manifestations, on trouvait d'ailleurs à l'époque le Parti Socialiste qui disait non, il ne faut pas toucher à la retraite à 60 ans. Et lorsque finalement François Hollande a été élu en 2012, il a mis en place la réforme avec Marisol Touraine qui allongeait la durée de cotisation. Donc ça fait des années que les Français en fait se retrouvent avec des hommes politiques qui, lorsqu'ils sont en campagne, leur disent « Mais non, bien sûr, il ne faut pas toucher aux retraites, c'est un droit fondamental, tous les travailleurs ont droit au repos. » Et paf, quand ils gouvernent, ils veulent toujours toucher à ce droit fondamental.
Mais donc, vous pensez quand même que le système... Raquel, vous pensez que le système aujourd'hui, il est pas en danger, ce système par répartition? Vous pensez quand même qu'il faut un peu ajuster, travailler sur l'accompagnement des seniors dans l'emploi, pour les Français qui sont en bonne santé, qui ont envie de travailler plus longtemps, laisser effectivement cette liberté de choix? Quelle est votre doctrine sur les questions de retraite?
Liberté de choix.
Voilà.
Moi d'abord je suis très attachée au système par répartition. Je pense que contrairement à tous les autres pays où c'est un système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire que chacun en fait met un petit peu de côté pour soi-même, le système de répartition est beaucoup plus juste et beaucoup plus solide en plus, parce que tant qu'il y a des travailleurs, ça veut dire qu'on a une manne financière. Mais bien sûr ça implique qu'il y ait du travail pour tous et qu'il y ait un niveau de cotisation qui soit suffisant pour financer les retraites. Alors ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, vous l'avez dit tout à l'heure avec Mr. Gignac, c'est effectivement que non seulement il n'y a pas de risque à court terme, puisque même l'année prochaine, le régime sera excédentaire de 3 milliards, mais surtout ils disent, et c'est important, que la trajectoire en fait est maîtrisée jusqu'en 2070. Bon, alors, franchement...
Donc vous pensez que ce système... de solidarité n'est pas en danger. Raquel, restez avec nous parce qu'on va prendre Alexandre qui est coiffeur et qui tient un salon. Alexandre, qui va nous parler aussi de cette réforme. Alexandre, bonjour.
Bonjour Karim.
Merci d'être avec nous, Alexandre. Vous êtes à la tête d'un salon, même j'ai envie de dire, vous chapeautez plusieurs salons de coiffure dans Paris et des salons qui emploient énormément de personnel. Quand on vous dit réforme des retraites, qu'est-ce que vous nous dites? Vous êtes inquiet? Vous dites qu'elle est nécessaire? Vous comprenez pas? De quoi avez-vous entendu parler lorsque vous entendez le mot réforme des retraites?
Merci en tout cas de m'inviter, Karim. Moi, ce qui me sensibilise dans notre métier, c'est que 80% des coiffeurs, enfin de notre profession, on est des gens qui avons commencé très tôt.
Quel âge, Alexandre?
Une carrière longue, entre 16 et 18 ans. Donc, on est sur des carrières qui sont longues. Ça veut dire que si on nous allonge encore notre départ à la retraite, et là, je vais prendre mon cas personnel, mais énormément de coiffeurs sont dans mon cas, c'est que j'ai commencé à 17 ans. Ça veut dire qu'à partir de 42 ans de travail, j'aurai 59 ans. Ça veut dire que je vais continuer encore jusqu'à 62, 63, 64. Je ne sais pas jusqu'à l'âge légal où on pourra partir. Mais c'est justement, nous, ce qui nous sensibilise, c'est justement ces années supplémentaires. Est-ce que ça va valoriser notre retraite? Est-ce que ces années supplémentaires, on va travailler peut-être 44, 45, 46 ans? Est-ce que ces années-là, justement, de 59 à 63, est-ce qu'elles vont valoriser notre retraite? Est-ce qu'elles vont... C'est des salaires dans la coiffure, les salaires des métiers manuels... Et c'est des métiers, le salaire médian dans la coiffure, il est à peu près entre 1 800 et 2 000 euros brut. C'est-à-dire que quand on part à la retraite, on ne part pas avec des retraites qui sont très. Qui sont un peu difficiles. Donc, ce qui serait bien, c'est justement de valoriser ces carrières longues, où on ne pourra pas partir à la retraite à 59 ans, mais qu'on pourra partir qu'à 62, 63, et que ces 4 années-là. Valoriser justement notre
Il est pénible votre boulot, Alexandre?
Oh, il est pénible, j'adore moi mon travail, bien sûr qu'il y a de la pénibilité de partout, d'être debout toute la journée, d'être plié un peu sur les bacs, le bruit, les sèche-cheveux toute la journée, les samedis, travailler les samedis, manger des fois en 5-10 minutes, Après, c'est extraordinaire d'être dans le salon de coiffure.
Et avec vos équipes, cette réforme des retraites, Alexandre, vous avez le sentiment qu'elle inquiète ou ils sont indifférents à la réforme?
Oh, ils sont un peu inquiets. C'est de savoir à quel moment on va pouvoir partir. Ils sont un peu inquiets, mais on est quand même positif. Il faut rester du côté positif et de savoir. Comment nous on va pouvoir en tirer un peu bénéfice de tout ça, parce que comme vous dites, il faut pas que ça régresse, il faut que peut-être qu'un bénéfice ça soit gagnant-gagnant, vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr, gagnant-gagnant, voilà. C'est un terme que on n'utilise pas beaucoup quand on veut réformer le pays.
Voilà, si on réforme quelque chose, mais il faut que derrière on ait quelque chose de un peu plus, est-ce que si nos retraites sont un peu améliorées, sont meilleures, voilà, peut-être, mais il faut que ça soit gagnant-gagnant, quoi, c'est du donnant-donnant.
Merci Alexandre. Merci beaucoup en tout cas de votre témoignage. Belle continuation à vous, à très vite.
Merci beaucoup.
Au revoir. Nouvelle pause dans les engagés sur Beurre FM. Zora, si elle veut bien rester concentrée, ma réalisatrice. Donc je lance la nouvelle pause, mais derrière, on va Raquel Garrido, Prisca Thévenot, Henri Sterdignac, donc évoquer cette question de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut la faire? Est-ce qu'elle est juste socialement? Ça sera notre dernière partie.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour dans les engagés pour poursuivre notre premier débat sur la réforme des retraites. Moi, je trouve que cette émission, elle passe trop vite. Je ne sais pas si c'est votre avis. Donc, c'est de la folie. Avec mon équipe, on s'est interrogé. Est-ce qu'on doit traiter un sujet pendant 2 heures, 1 heure et demie? Parce qu'on traite 2 sujets dans l'émission. À chaque fois, on prend 1 heure, mais ça passe trop vite. Donc, venez sur les réseaux sociaux de Beurre FM nous donner votre avis. Est-ce qu'il faut qu'on traite cette émission avec un débat pendant 2 heures ou 1 heure et demie pour prendre le temps? Venez aussi sur mes réseaux sociaux, Karim Zeribi, Instagram, Twitter. Donnez-moi votre avis. Ça nous intéresse. Cette émission, c'est la vôtre. C'est une émission citoyenne. C'est une émission d'information, de débat. Alors, Henri Sterdignac, qui est avec nous, qui est économiste, nous dit cette réforme, elle n'est pas urgente à faire. Donc, notre système par répartition, il tient. Il est équilibré. Et il sera même bénéficiaire l'année prochaine. Henri Sterdignac, franchement, le gouvernement, il se fout de notre... vous avez compris. En faisant cette réforme, il veut faire un peu de gras pour équilibrer le budget global de notre État, où vraiment, notre système mérite d'être sauvé et donc révisé.
Notre système qui est un des meilleurs du monde, qui est, comme on l'a dit, pratiquement équilibré, qui pourrait à l'avenir être équilibré par des petites hausses de cotisations. Le gouvernement veut le mettre en cause, il veut retarder l'âge de départ à la retraite, ce qui pèsera surtout sur les ouvriers, les employés, ceux qui ont des difficultés à rester tard à l'emploi. Et pourquoi il veut faire ça? Il veut faire ça avant tout pour réduire les dépenses de retraite. Hein, il trouve qu'on dépense trop pour la retraite, ce qui veut dire que si par hasard il réussissait à retarder l'âge de départ à la retraite, les économies faites ne serviraient pas à augmenter le niveau des retraites, puisque l'objectif au contraire c'est de baisser les dépenses de retraite. Ça servirait uniquement à réduire éventuellement le déficit public, et le pire c'est que ça servirait en fait au gouvernement à avoir des marges de manœuvre pour réduire les impôts sur les entreprises. Et c'est là le grand danger contre lequel il faut se mobiliser.
Ce que vous nous dites est très intéressant, et je vais faire rebondir Prisca Thévenot qui est à ligne à nouveau avec nous. Ça passait mal tout à l'heure, j'espère que ça passe bien. Prisca, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, j'espère que ça passe mieux maintenant.
Superbe. C'est important parce que on entend notre économiste nous dire que si on fait une réforme, on fera rentrer plus d'argent dans les caisses de retraite, mais cet argent ne sera pas utilisé pour augmenter par exemple les pensions, donc des petits retraités et qui gagnent déjà très très peu à la fin du mois, qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail, mais ce bénéfice servira à équilibrer le budget global de l'État. Qu'est-ce que vous avez à répondre à
ça? Plusieurs choses qui ont été dites, et déjà merci Karim pour ce moment à l'antenne sur un sujet extrêmement important qui est extrêmement angoissant pour beaucoup de Français, et ça on l'entend. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais pas beaucoup de choses vraies en réalité.
Allez-y.
La réforme faire une réforme des retraites, juste dire ça, on ne peut pas dire que c'est une régression. Est-ce que c'est une régression de justement dire qu'on va augmenter les minima de pension de retraite? Est-ce que c'est une régression de dire qu'on va faire en sorte que les femmes, quand elles arrivent au moment de l'âge de la retraite, ne soient pas dans un système profondément inégalitaire? Vous parliez tout à l'heure des coiffeurs. Eh bien oui, c'est un métier extrêmement féminin. Eh bien, dans ce métier-là, il faut savoir que, eh bien, c'est pas spécialement égalitaire pour eux. Est-ce que c'est une régression de dire qu'on va mieux prendre en compte les carrières longues, les carrières pénibles? Moi, je suis pas sûre. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, avant de vouloir jeter à la poubelle une réforme qui arrive et dont les concertations ont encore lieu, sont en cours, je trouve que c'est ne pas bien comprendre le régime tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est bien évidemment un enjeu financier, mais c'est aussi un enjeu en termes de promesses sociales. Faisons en sorte que notre régime, déjà, soit pérenne, continue à exister dans le temps, pour les générations à venir, mais aussi répare les inégalités qu'il produit.
Donc vous nous dites, Prisca Fesneau, cette réforme sera sociale.
Mais elle est sociale. Mais de toute façon, le régime de retraite tel qu'il existe aujourd'hui en France et qu'on doit conserver, c'est un fabuleux lieu d'intergénération.
Ah non, mais ça, nul ne le conteste. Notre régime par répartition est un système de solidarité exceptionnel dans le monde dont on est très fier. Mais aujourd'hui, vous comprenez que les Françaises et les Français, qui pour beaucoup vont au boulot, non pas en sprintant, mais parfois en reculant, se disent, s'il faut que je fasse encore quelques années, surtout sur des métiers pénibles, comment je vais finir?
Est-ce que je vais pouvoir vivre de ma retraite? C'est bien ce qu'on vient de dire. Cette réforme va surtout répondre à ces sujets-là.
Bon, parce alors, en général, y a pas on le accumule contenu, pénibilité. Je suis désolé, mais il n'y a pas le contenu. Vous avez le gouvernement n'a absolument annoncé aucune mesure sur la pénibilité et sur l'égalité homme-femme.
Oh non, monsieur, non. Là, c'est faux. Vous pouvez reprendre tout ce qui a été dit pendant la campagne des présidentielles, notamment au moment du débat entre les deux derniers candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ça a été abordé en long, en large, en travers. Je suis absolument navrée. Et je suis
qu'est-ce que le gouvernement compte en faire sujets, pour la pénibilité?
Monsieur, je vais finir ma phrase. Et justement, au sein du Parlement, donc à l'Assemblée nationale où je siège, notamment en commission des affaires sociales, qui va recevoir ces sujets-là, eh bien, c'est au cœur même des débats. Donc, je veux dire que c'est faux de dire que ça n'a pas été abordé. Ça n'a pas arrêté d'être abordé. La pénibilité, la revalorisation des pensions minimales, mais également les carrières longues.
Prisca, on a mis un son, je ne sais pas si vous l'avez entendu, du président de la République en 2019. Écoutez-le.
Non, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Délai légal. Ce serait hypocrite.
Prisca, on a le même président de la République aujourd'hui qu'il y a 3 ans?
Karim, ce qui est hypocrite, c'est de faire parler des propos en 2019 sans prendre ceux de 2022. Le propos est le même, c'est-à-dire que oui, nous ne devons pas faire travailler ceux qui ont déjà plus longtemps, ceux qui ont déjà des carrières longues, ceux qui ont des carrières pénibles. Mais il y a un certain nombre d'autres emplois où effectivement nous pouvons pousser l'âge de départ à la retraite. Arrêtons de regarder le truc par le petit bout de la lorgnette. Oui, c'est pas facile à entendre que nous devons aujourd'hui mener une réforme. Mais cette réforme, elle est pas pour le pire, elle est pour le mieux. Et être responsable politique aujourd'hui, c'est être en capacité de le dire. Et être responsable politique aujourd'hui, c'est aussi être en capacité de se mettre autour de la table pour avoir les concertations, pour discuter sur ces sujets-là et pour y travailler. Et c'est ce que les parlementaires vont faire.
Prisca.
Maintenant, ça me fait un peu mal d'entendre qu'une réforme qui va pour sauvegarder notre régime et le rendre plus égalitaire est une régression. Enfin, c'est complètement incohérent.
Prisca, vous êtes députée de la majorité. On connaît votre fibre sociale, de votre humanisme. Donc, on peut penser que vous voulez aller dans cette direction. Vous comprenez très bien que la question que nous nous posons au-delà de Prisca Thévenot, que l'on apprécie, c'est la volonté d'un gouvernement et d'une majorité, donc, à réformer un système de solidarité, donc, auquel nous tenons, et, donc, à ne pas prendre en compte compte la question sociale, la question de la pénibilité suffisamment. Vous nous dites le contraire. Raquel Garrido qui est avec nous. Raquel, vous êtes députée de la NUPES. On sait que vous avez aussi le goût de la justice sociale. Si Prisca Thévenot, qui nous dit que cette réforme sera sociale, tient sa promesse, j'ai envie de dire, au nom de la majorité présidentielle, si ça va dans cette direction, est-ce que vous vous opposerez ou est-ce que vous serez en mesure d'amender, d'alimenter la réforme avec la prise en compte de la pénibilité, l'augmentation des petites retraites, ou est-ce que vous allez jouer l'obstruction parce que vous n'en voulez pas de cette réforme? C'est quoi votre posture?
Alors, nous, on a une proposition qu'on défend depuis longtemps, qui est la retraite à 60 ans. Je rappelle quand même, il faut quand même faire le bilan de ce qui a été fait avant. Le passage de 60 à 62 ans, qui n'est pas le fait de Macron, hein, tout ça c'est les gouvernements antérieurs, mais Macron était quand même d'accord avec ça, il a des conséquences. Par exemple, 25% des travailleurs les plus pauvres sont morts avant 62 ans. C'est ça la réalité. Et lorsque, notamment la CFDT avait accepté ce passage à 62 ans, contre le fait effectivement de prendre en compte des carrières longues, comme celle d'Alexandre qui a commencé à 17 ans, eh ben, quand même, faut qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir si c'était une bonne chose, parce que Alexandre, lui, ben, il aurait été mieux tout simplement qu'on reste à la retraite à 60 ans, puisque c'était tout simplement la voie naturelle qui finalement lui permettait d'avoir une retraite digne après toute tant d'années de travail.
Donc vous allez défendre ça, vous, à l'Assemblée, retraite à 60 ans. Vous avez un contre-projet.
Mais évidemment, parce que plus que jamais, vous avez vous-même parlé, Karim Zeribi, du taux de chômage chez les seniors. On sait de toute façon que tout allongement des durées de cotisation pour avoir le droit à une retraite complète provoque la baisse des retraites. C'est simple, c'est automatique, notamment chez les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à cotiser jusqu'au bout. Donc en fait, tout ça, c'est un énorme appauvrissement. C'est une énorme ponction sur le peuple, ponction financière sur le peuple, à un moment où les super profits n'ont jamais été aussi élevés.
Raquel,
autant de super profits, et au lieu de taxer les super profits, eh ben, ils génèrent en fait une espèce de nouvelle taxe sur les pauvres.
Raquel Garrido, je vais vous faire une proposition que je lance à Prisca Thévenot. Vous êtes d'accord pour venir toutes les deux sur le plateau de Beurre FM pour débattre?
Avec grand plaisir.
Prisca.
Mais nous y sommes.
Prisca.
Non mais vraiment un grand plaisir, parce que du coup moi j'aurais une question à poser à Raquel Garrido. J'entends tout à fait votre alerte et j'ai envie de vous dire, je la partage. Je ne veux pas que les gens qui sont déjà dans des carrières pénibles, qui sont des carrières longues et qui souvent effectivement n'arrivent pas à atteindre l'âge de la retraite, soient pénalisés par cette réforme. Mais est-ce que l'âge de la retraite que vous pouvez proposer à 60 ans, vous l'appliquez à tout le monde?
Prisca, vous entendez la petite musique de fond? C'est une musique magnifique, c'est celle qu'on utilise au Stade Vélodrome à Marseille quand notre équipe a Laurent sur le terrain. Là, c'est pour la pause. Donc moi, ce que je vous propose, mesdames les députés de la République, Raquel Garrido et Prisca Thévenot, c'est de venir en plateau très prochainement, on vous lance l'invitation, pour débattre, s'il faut, pendant 2 heures de ce sujet. Vous êtes d'accord?
Avec plaisir, Karim Zeribi.
Merci.
Au revoir tout le monde.
Merci à toutes les deux. Merci, mesdames les députés. Merci. Merci, effectivement, Prisca Thévenot. Henri, un petit mot au retour de la pause, parce que ce débat, je pense qu'on va encore l'avoir pendant quelques mois. On lance la petite pause.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour. Alors normalement, on devrait passer à la rubrique Le Conseil citoyen dans un instant. Ensuite, le débat des engagés sur la deuxième partie, donc sur le combat des femmes en Iran, combat pour la liberté. Henri, on peut pas se quitter sans un mot de conclusion, même en 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'il faut sur ce débat complexe des retraites pour nos pays?
D'abord, il faut un débat démocratique, un débat ouvert. Il faut que le gouvernement nous dise clairement qu'est-ce qu'il va faire avec les économies qu'il réaliserait si on retarde l'âge de la retraite. Il faut de toute façon que ceux qui ont eu des carrières pénibles soient protégés et qu'elles puissent continuer à partir à 60 ans et même avant pour les métiers extrêmement pénibles. Il faut tenir compte également du fait qu'il faut augmenter un certain nombre de petites retraites, et il faut pas que la réforme des retraites, l'objectif soit avant tout de baisser les dépenses de retraite, parce que on a besoin des retraites pour avoir une période après le travail de retraite heureuse.
Vaste programme. Je vous sens quand même très dubitatif sur la démarche du gouvernement. Ce que je vous propose, j'ai lancé l'invitation aux deux députés, Prisca Thévenot et Raquel Garrido, pour venir débattre, s'il faut pendant une heure et demie ou deux heures sur le plateau, en traitant tous les sujets, parce que le spectre, il est à la fois vaste et complexe. Vous êtes d'accord pour venir ?
Mais avec plaisir.
Merci Henri. Merci Henri Sterdignac, économiste, membre fondateur du collectif Les Économistes Atterrés. C'était quatre économistes qui ont créé cette association en 2011. Donc, et vous avez été avec nous pendant plus d'une heure. Merci. Je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Beurre FM. Je lance la rubrique Le Conseil Citoyen.
Le Conseil Citoyen.
Alors, le Conseil citoyen, c'est toujours avec notre avocat Maître Serroussi. Comme vous le savez, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui a été lancé depuis le début des engagés. Lou, aujourd'hui, on va faire un suivi.
Absolument, Karim. Comme chaque semaine, nous sommes donc en ligne avec Maître Serroussi, avocat en indemnisation de dommages corporels et figure montante du barreau de Marseille. Comme vous venez de le dire, Karim, aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire de Nadia, squatteuse à Marseille, dossier important dont s'occupe Maître Serroussi. Où en est-on aujourd'hui ? La police est-elle intervenue ? Qu'en est-il du recours qui a été déposé ? Nadia va-t-elle rendre son logement aux propriétaires Pierre et Maryse ? On vous explique tout sur les suites de ce dossier brûlant.
Merci Lou. Alors avant de donner la parole à Maître Serroussi, effectivement, pour nous faire, un suivi, pour assurer le suivi de cette affaire dont il a la charge, parce que c'est lui l'avocat de Nadia, je voudrais m'excuser auprès de Louisa, Merouane et d'autres auditeurs de Beurre FM qui ont composé le 01 53 48 3000 qu'on n'a pas pu prendre à l'antenne, parce que cette émission, c'est le TGV de la liberté d'expression, ça va tellement vite, mais continuez de nous appeler, continuez de suivre notre émission. À un moment donné, soit on va nous donner plus de place à l'antenne, soit on va faire une émission spécialement dédiée aux auditeurs. Donc, moi j'y tiens, hein, donc continuez de composer ce numéro. Maître Serroussi, bonjour.
Bonjour Karim.
Très content de vous avoir comme chaque semaine. Alors, le suivi du cas dont vous avez la charge, Nadia, je le rappelle, dans le 16e arrondissement de Marseille, du côté de l'Estac, elle occupe une maison dont les propriétaires sont monsieur et madame Garcia, qui aujourd'hui dorment dans un camping-car sur le parking devant leur maison. Nadia, contrairement à ce que disaient les médias, a payé son loyer jusqu'au mois d'août dernier. N'était pas une squatteuse, mais était une locataire sans renouvellement de bail. Nadia a intenté des actions en justice par votre biais pour pouvoir prendre son temps et rester un peu plus dans le logement. On a vu dans la presse que le préfet a menacé Nadia d'une intervention des forces de l'ordre pour expulser. Aujourd'hui, on vous a en ligne. Où en est-on, Maître Serroussi ?
Karim, finalement, vous avez très bien résumé la situation. Nadia n'est pas une squatteuse. Nadia détient un titre de location depuis 2017. Elle est locataire depuis 2017 de ce logement. Et finalement, effectivement, les propriétaires ont décidé de lui donner un congé pour reprise pour pouvoir réintégrer leur logement. Donc, il y a une audience qui a eu lieu en mars 2022, ce qui a abouti sur une décision d'avril 2022 qui ordonne l'expulsion de Nadia sous un délai de 4 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. C'est justement l'objet du débat aujourd'hui judiciaire devant le tribunal, parce que j'estime, et c'est argumenté, que ce délai n'a jamais commencé à courir au vu de la nullité que je soulève du commandement de quitter les lieux qui a été délivré par l'huissier. Donc, effectivement, malgré cette difficulté, puisqu'elle est actuellement pendante devant le tribunal de Marseille, monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 28 septembre dernier, donc il y a quelques jours, une décision administrative qui autorise la force publique à venir déloger Nadia de son logement.
Elle est intervenue, la force publique, ou pas ?
Alors, la force publique est intervenue lundi chez Nadia pour la prévenir que finalement c'était imminent et que sa sortie était imminente. Dans l'intervalle, on a fait ce qu'on appelle un référé liberté. Alors un référé liberté, c'est une procédure un peu exceptionnelle que les textes de loi nous permettent et qui met en avant l'absence de respect d'une liberté fondamentale de Nadia qui doit être appréciée par le tribunal administratif. L'audience a eu lieu. J'aurais aimé vous annoncer le délibéré de cette affaire, mais sauf que pour l'instant, l'affaire est toujours en cours de délibéré devant le tribunal administratif. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est soit le tribunal administratif estime que la décision du préfet entrave une liberté fondamentale, auquel cas la décision du préfet sera suspendue, soit le tribunal administratif ne l'estime pas et auquel cas Nadia va se trouver face à de nouvelles difficultés.
Vous comprenez, Hervé Serroussi, que dans l'opinion, on s'interroge sur la volonté ou pas de Nadia de quitter ce logement. On s'interroge sur l'inaction des institutions républicaines. Je pense à la mairie, au département des Bouches-du-Rhône, à la mairie de Marseille, qui pourrait dire, bon, ok, il y a le côté juridique, judiciaire, c'est technique, son avocat, qui est une figure montante du barreau de Marseille, fait tout pour défendre sa cliente de manière avec brio. Mais par ailleurs, on pourrait se dire que moralement parlant, voir des propriétaires dormir dans un camping-car sur un parking en face de leur propriété, c'est quand même pas extraordinaire en termes de situation. Pourquoi vous ne vous êtes pas mobilisé plutôt que d'être uniquement sur le terrain juridique, sur le terrain d'une sortie de crise, en demandant à la mairie, au département, proposer un logement social à Nadia, elle a un enfant de qu'elle est seule, et derrière les propriétaires retrouveront leur logement. Pourquoi il n'y a pas eu cette démarche de synergie, de tour de table, de gagnant-gagnant, dans la bonne entente? Pourquoi on est toujours sur la judiciarisation de nos relations humaines dans notre grand et beau pays?
Je vous rejoins, Karim, sur cet aspect-là. C'est vrai que finalement, un tour de table avec tous les intervenants aurait été, à mon avis, bienveillant pour essayer de sortir de cette crise qui, finalement, endommage en réalité un peu au niveau national l'image de la relation propriétaire-locataire et malheureusement un peu l'image de Marseille, parce que c'est Marseille qui montrait du dos aujourd'hui par rapport à cette histoire qui a fait le tour de France. Je vous l'accorde volontiers, mais après, je pense que il y a eu des assistantes sociales qui ont sûrement essayé de faire ce travail. Moi, vous savez, je suis avocat, on me confie des dossiers, j'essaie de déterminer des problématiques juridiques. Maintenant, si jamais je sors du spectre juridique, vous avez raison, et je vous l'accorde volontiers, un tour de table avec la mairie, avec les intervenants sociaux, avec les chargés en relogement et en politique de logement de Marseille, est une démarche intéressante et c'est pas du tout quelque chose qui a à exclure.
Ben on lance un appel, moi je vous le dis sur Beurre FM, Benoît Payan, maire de Marseille, de que Martine Vassal, présidente du département, Nora Preciosi, qui est une élue de terrain, qui a une sensibilité sociale, je crois qui a pris la tête de 13 Habitat, qui est le bailleur social départemental, on leur lance un appel, rentre en contact avec Maître Serroussi, donc faites une proposition à Nadia qu'on sorte de cette situation. C'est pas possible, c'est ni bon pour les époux Garcia, propriétaires, ni bon pour Nadia qui se fait lyncher sur les réseaux sociaux, et on a un avocat qui fait son job, Hervé Serroussi, mais qui aimerait aussi qu'il y ait un débouché à dimension humaine. Donc voilà, on lance un appel pour Beurre FM.
Ben, vous le faites bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Et on a besoin surtout d'intervenants qui prennent le relais. Parce que dans la réalité, c'est vrai que de voir les Garcia sur leur parking, dans ce camping-car, c'est une image qu'on n'aime pas voir.
Ça vous fait pas plaisir.
Voilà, mais évidemment. Et ça, tout le monde en convient.
Et Nadia aussi, je suppose.
Nadia être mise à la rue sans possibilité de relogement, sans que personne au niveau aujourd'hui local aujourd'hui ne nous propose quoi que ce soit, avec une enfant de 15 ans qui est, je vous le rappelle, scolarisée dans un établissement, c'est aussi très compliqué. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on retrouve la raison, qu'on se pose et qu'on essaie de trouver une issue favorable pour tout le monde qui n'est, et je vous l'accorde, pas forcément que juridique.
Bien sûr. Hervé, vendredi prochain, j'espère qu'à Sainte-Adeline, vous nous direz l'affaire est réglée. Et tout le monde est content parce qu'on a trouvé une issue positive pour les uns et les autres.
J'espère aussi, Karim, je vous tiens informé et bien évidemment en priorité les auditeurs de Beurre FM.
Ben, on va agir avec vous à vos côtés. Personnellement, j'appellerai les institutions marseillaises que je connais un petit peu pour avoir été élu pendant quelques années dans cette belle ville, la deuxième ville de France. Merci Hervé.
Merci à vous.
À très bientôt, à très bientôt. Chers amis, on lance le débat des engagés en urgence.
Le débat des engagés.
Comment la France peut-elle soutenir le combat pour la liberté des femmes iraniennes? C'est notre débat. Vous savez que ça nous tient particulièrement à cœur ce qui se passe en Iran aujourd'hui, le combat des femmes iraniennes. Lou, rapidement, c'est vrai que c'est un sujet qui est sensible. On va l'aborder avec des invités, de marque, légitimes pour parler de cette question. Comment on pose le débat qui est un débat complexe.
On va surtout, effectivement, Karim, placer le contexte. Le 13 septembre dernier, Mahsa Amini, jeune femme iranienne de 22 ans, est arrêtée par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire, c'est-à-dire pour avoir mal porté son voile. Après 3 jours de coma, elle décède à l'hôpital le 16 septembre suite à une fracture osseuse du crâne, une hémorragie, un œdème cérébral. Des blessures compatibles donc avec un passage à tabac de la part de la police. Sa mort déclenche immédiatement une vague de manifestations en Iran de la part de femmes, mais aussi d'hommes, toutes classes confondues. Violemment réprimés, ces rassemblements de solidarité avec les femmes iraniennes à travers le pays ont déjà fait près de 100 morts, selon l'ONG Iran Human Rights. Dans une vidéo diffusée ce mercredi 5 octobre, une cinquantaine d'actrices et de chanteuses françaises se filment en train de se couper des mèches de cheveux en soutien aux femmes qui manifestent chaque jour au péril de leur vie depuis la mort de Mahsa Amini. Un écho au geste des iraniennes qui se rasent la tête en signe de protestation. Alors ce mouvement peut-il s'inscrire dans le temps? Le gouvernement iranien peut-il être renversé par cette révolution menée par les femmes? Comment la France peut-elle soutenir ce mouvement de contestation? On en débat tout de suite, Karim, avec vos invités et surtout avec nos auditeurs qui peuvent nous appeler au 01 53 48 3000.
Merci Lou. On a la chance d'avoir en plateau avec nous Fariba Achroudi, qui est écrivaine, journaliste franco-iranienne, présidente de l'association Mohsen Achroudi, qui est une association au nom de son papa, qui est mathématicien humaniste iranien, association qui lutte pour les droits fondamentaux, la liberté, l'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes en Iran. Merci Madame Achroudi.
Merci à vous.
On est très honorés que vous soyez avec nous. Vous avez écrit, vous êtes auteur de Ali, la parole défendue, qui a été publié en mars 2022 aux éditions Éric Bonnier.
Oui.
Avec
Éric, justement, c'est peut-être le moment de dire que nous avons également publié un livre, Le 12e imam est une femme. C'était évidemment un pamphlet, un roman. Et on voit aujourd'hui que le combat pour la liberté et pour l'égalité est mené par les femmes en Iran. J'y ai pensé d'ailleurs hier soir avant de venir ici. Donc peut-être qu'on en parlera dans une autre émission, c'est pas l'heure. Mais effectivement, avec Eric, on a mené, pas simplement avec Eric, tous mes livres, il y a beaucoup de mes livres parlent d'Iran. Et je me disais d'ailleurs s'il y avait eu un peu plus d'écho sur, pas simplement mes livres, hein, il y a eu beaucoup de livres sur la situation iranienne, peut-être que les gens comprendraient mieux aujourd'hui ce qui se passe. Mais bon, parenthèse fermée, merci à vous de m'inviter.
C'est un grand plaisir. En face de vous se trouve Charles Ghavami Shirazi, qui est fils de réfugiés iraniens. Il manifeste tous les dimanches pour soutenir les familles iraniennes. Donc Charles est chef d'entreprise aujourd'hui dans notre pays. Bonjour Charles.
Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là aussi pour parler de ce qui se passe en Iran, car toutes les femmes et filles iraniennes sont dans la rue suite à l'assassinat de Mahsa Amini, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Les filles iraniennes aujourd'hui demandent la liberté, femme, vie, liberté, pour pouvoir être libre, car aujourd'hui, depuis 40 ans, c'est compliqué et ils ne peuvent pas être libres.
Ouais, évidemment, c'est le sujet phare de notre débat, la liberté qui fait partie du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. On aimerait tant effectivement que cette promesse soit effective pour les femmes en Iran, les femmes et les hommes d'ailleurs, parce oui, qu'il faut pas non plus isoler le combat des femmes. C'est un combat pour la communauté nationale iranienne. D'ailleurs, on a beaucoup d'hommes qui sont aux côtés de ces femmes. On a vu l'équipe de foot qui portait un parka noir, qui n'a pas voulu lever ce parka en signe de solidarité. Donc finalement le courage, donc il est chez les femmes évidemment en premier lieu, mais il est plus largement dans toutes les composantes de la société iranienne. Absolument. Aujourd'hui on sent un ras-le-bol
totalement. Je veux d'abord insister aujourd'hui de dire que le mouvement effectivement a été mené par les jeunes femmes, mais surtout les jeunes femmes, les étudiants. Ça a commencé dans les milieux
universitaires.
Ça a été soutenu, comme vous avez dit, par les jeunes hommes. Et comme me disait Benoît de Croul, il n'y a pas de féminisme sans que des hommes soient derrière. Je veux dire, chaque fois que vous voyez un mouvement féministe ou une féministe qui est avant l'heure devient, c'est qu'il y a un homme derrière. Donc, comme vous dites, moi j'insiste toujours que ce n'est pas simplement un mouvement, c'est pas un mouvement féministe en Iran. Évidemment, les femmes sont les porte-drapeaux de ce mouvement qui d'ailleurs vise la tête du pouvoir clérical. Je dis pas religieux, je dis clérical, parce que la religion est respectée et respectable. Moi, je suis agnostique totalement, mais j'ai appris par mon père qu'il fallait respecter la agnostique et laïque. La religion de l'autre, du moment que l'autre ne vient pas vous embêter. Mais là, c'est une religion de l'État qui n'a en plus rien à voir avec l'essence ou le message de ce que ça devrait exactement. Donc, mouvement estudiantin, pour moi d'ailleurs, je l'ai dit, et je voudrais lancer ça de plus en plus, c'est le mai 68 iranien, c'est le septembre 22 de l'Iran, par la jeunesse iranienne, une jeunesse absolument éduquée, formidable, ouverte sur le monde, et qui n'a rien à voir avec un pouvoir. Alors, le pouvoir, on en parlera également, oui, si vous êtes d'accord.
Mais vous attendiez à ce mouvement? Vous vous attendiez sincèrement?
Ah oui, vraiment. Pas cette ampleur, sûrement pas, parce que la répression est terrible en Iran. Mais évidemment, les trois dernières années, j'ai vécu en Iran. Je suis rentré en Iran pour enregistrer la fondation au nom de mon père, et il y avait une partie de composants de ce pouvoir, notamment beaucoup de réformateurs qui, des tapis rouges, oui madame, votre père, etc. Alors, certainement par calcul politicien, peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête et Dieu m'en préserve, ouais, vraiment. Mais ce n'est pas le propos, c'est que on ne m'a pas laissé, qui ne m'a... Le pays est tenu par des instances opaques, dont les services secrets, et effectivement c'est eux qui tabassent les jeunes aujourd'hui, c'est eux qui tuent, c'est eux qui... Alors, quand je dis eux, en plus, même au sein des services secrets, il n'y a pas une instance des services secrets, il y a des services secrets dans les services secrets, il y a vraiment des états.
C'est pas un bloc homogène, on a l'impression.
Exactement. Et ça, c'est très important, parce que quand on parle du régime iranien, évidemment, il y a la tête, il y a M. Ali Khamenei qui est le guide suprême et qui a un droit de veto sur tout. Mais néanmoins, même autour de M. Khamenei, tout le monde n'est pas d'accord.
C'est ça.
Alors, au sein du clergé, il y a des ayatollahs qui ne sont absolument pas d'accord, des ayatollahs dont... il me semble que c'est Sané ici, si je ne m'abuse, qui, il y a quelques années, il a dit, vous ne pouvez pas imposer par la force, ne serait-ce que le voile, hein. Et il y a des ayatollahs qui ne sont pas d'accord avec l'ensemble des lois de la charia, qui sont ubuesques au 21e siècle, quand vous voyez les clauses de loi. Donc, effectivement, c'est contre ça, c'est contre la religion de l'État et la théocratie que, comme vous avez dit, l'ensemble de la société, derrière les jeunes, fait bloc en disant basta.
La dernière fois que vous étiez en Iran, c'est quand ?
Juste un mois avant l'élection de M. Raisi. Et il y a eu un changement notable depuis M. Raisi. Et ce n'est pas par hasard, j'arrêterai là pour que vos autres invités puissent parler également, c'est que ils ont préparé. Il voulait préparer la suite de M. Khamenei. Il y avait déjà une peur au sein du pouvoir quand ils n'ont pas laissé les réformateurs faire les petites ouvertures qu'ils avaient commencé à faire. Et donc, voilà le résultat.
Merci Fariba Achroubi. Une entrée en matière qui en dit long et qui nous donne quand même des éléments très concrets, très précis sur le pouvoir iranien, qui n'est pas un bloc homogène. Il y a des tensions en son sein, il y a des visions totalement différentes. On nous dit aussi que c'est pas l'islam qui est à remettre en cause, c'est pas la question de la religion, c'est la manière dont on impose,
une religion d'État,
et avec un message dévoyé de l'islam. On le verra tout à l'heure, parce que j'ai souhaité que nous ayons un imam en ligne aussi, parce que cette question iranienne, elle permet aussi à certains de taper encore un peu plus sur l'islam et les musulmans, alors que le sujet, c'est la liberté des femmes iraniennes, c'est la liberté de choix, c'est la liberté de conscience.
Et la laïcité. Et la liberté de conscience, c'est la laïcité. Voilà, absolument.
Donc, petite pause et on revient très vite.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
De retour dans Les Engagés pour le deuxième débat, donc cette semaine, qui porte sur le combat des femmes iraniennes, un combat pour la liberté, pour l'égalité, dans un grand pays. L'Iran est un grand pays, la civilisation perse est une grande civilisation, et c'est vrai que on est atterré de voir en 2022 que des femmes ne puissent pas disposer de leur liberté de conscience, de leur libre choix, dans la tenue vestimentaire, dans la pratique d'une religion ou pas. Donc voilà, il faut que ça bouge. Donc on a envie de traiter de ce sujet avec des acteurs légitimes. C'est pour ça qu'on a Fariba Achroubi sur notre plateau, qui est écrivaine et journaliste franco-iranienne. Je vous rappelle qu'elle est présidente, Fariba, de l'association Mohsen Achroubi, qui est le nom de son papa, mathématicien humaniste iranien, une association qui lutte pour les droits fondamentaux, la liberté, l'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes en Iran. Je ne cesserai de le répéter. Donc c'est un combat que l'on partage.
Surtout pour la jeunesse iranienne.
Exactement.
Surtout pour la jeunesse iranienne et les étudiants et les universités. Ce qu'a fait mon père pendant toute sa vie.
Exactement.
Pardonnez-moi.
Vous êtes aussi auteur d'un ouvrage, Ali, la parole défendue. Vous avez écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages dont on s'interrogeait hors antenne sur, j'avais dire, le peu de visibilité qu'on a accordé à ces ouvrages, qui sont plus que jamais d'actualité. En face de vous, Fariba, se trouve Charles Ghavami Shirazi, qui est un fils de réfugié iranien, qui est chef d'entreprise, qui manifeste tous les dimanches pour soutenir les femmes iraniennes. Et à tous les deux, je voulais vous poser la question, est-ce que vous estimez que est-ce qu'on en fait assez du côté du gouvernement français, de nos responsables politiques, à l'échelle européenne aussi, parce qu'on voit la commissaire Madame von der Leyen s'activer sur certains théâtres de conflits, je pense à l'Ukraine, et c'est bien légitime, mais on pourrait se dire, est-ce qu'elle peut pas donner un peu plus de la voix sur le combat des femmes iraniennes? Charles, votre avis, c'est quoi, vous qui manifestez toutes les semaines? Vous attendez plus du gouvernement français sur la solidarité avec les Iraniens qui manifestent?
Oui, on attend beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont pas compréhensibles. Quand M. Macron serre la main du président Raisi à New York, et quelques jours après, ils font une minute de silence à l'Assemblée nationale française pour dénoncer ça, il faut qu'on trouve un juste milieu et qu'on comprenne, nous les Iraniens, pourquoi M. Macron parle avec M. Raisi alors qu'il demande à l'Assemblée nationale de faire une minute de silence. C'est incompréhensible. Deuxième chose, il faut pouvoir être libre et parler des choses librement, car l'Iran est un pays noble. La première charte des droits de l'homme a été écrite en Perse, qui est à Persépolis en Iran, qui est Kandalinik, Goftalinik, Pendalinik, bien agir, bien parler et de bons actes, et où c'était un pays avant ces mots-là qui arrivent en Iran il y a 40 ans, était un pays quand même assez libre de s'habiller comme ils veulent. Ils pouvaient pas obligatoirement porter le voile, étaient libres de se balader, porter une tenue qu'ils souhaitaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont décidé de fermer les choses pour pouvoir dénoncer ça. C'est une liberté, et c'est ce qu'aujourd'hui toutes les femmes demandent, femme, vie, liberté, zon zondegi azadi, en persan, qui est aujourd'hui, on manifeste le dimanche de Republica Nation ou de Trocadéro à Iéna pour démontrer ça, et on est un esprit collectif.
Merci Charles. Fariba, vous n'êtes pas d'accord, vous, avec avec les attentes du gouvernement vis-à-vis du gouvernement français ou des institutions européennes. En gros, vous dites, j'en ai que faire qu'ils interviennent ou pas. C'est bizarre.
Non, pas moi. Enfin, c'est pas que j'en ai que faire. Je veux dire, on le sait. D'abord, je voulais répondre à mon jeune compatriote. Entre le gouvernement et les représentants du peuple, justement, il y a une différence. C'est que l'Assemblée nationale représente le peuple français. Donc eux, même si c'est qu'ils le pensent, que ça soit un show-off, mais c'est différent. Le gouvernement, effectivement, vous savez, les motions de censure viennent de l'Assemblée nationale également.
Mais donc, le gouvernement a été élu démocratiquement, Fariba, attendez, c'est aussi le peuple français qui a décidé d'élire Emmanuel Macron à la majorité.
Non, d'accord, mais néanmoins, justement, quand l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec le président, c'est quand même deux choses différentes. C'est justement la représentativité populaire. Donc,
oui, mais sur la scène internationale, c'est le président de la République.
Bien sûr, c'était pour dire quand elle disait on ne comprend pas que Macron serre la
main de...
C'est pas que ça ne me choque pas, c'est que c'est, je veux dire, le peuple iranien en ce moment, les jeunes gens que j'ai au téléphone, quasi quotidiennement, ils disent on n'attend rien des politiques, on sait. Ils ont vu ce qui s'est passé en Afghanistan, ils ont vu ce qui s'est passé... Ils ne comptent plus sur les politiques, non seulement leur politique. Ils savent que quand on brandit les droits de l'homme, d'ailleurs c'est pour ça que les Iraniens, les Russes, les Chinois, non, rien n'affiche des postures des droits de l'homme. On n'est pas encore à ce que monsieur le grand philosophe allemand Jürgen Habermas propose, que la charte des Nations Unies et les droits de l'homme soient une des composantes des relations bilatérales entre les... On n'en est pas là. Donc, le peuple iranien a très bien compris ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui, comme mon jeune ami l'a dit ici. Ça fait depuis 40 ans. Depuis 40 ans que le peuple iranien essaye de dire non. D'ailleurs, cette révolution, au début, ça a été une révolution pour la démocratie. L'Iran a fait 3 révolutions. C'est le pays qui est à la pointe au Moyen-Orient en un siècle, 3 révolutions. Révolution constitutionnelle, où mon grand-père était un grand acteur, Ayatollah, grand acteur pour la Constitution. Il n'était pas le seul, hein, l'oncle de M. Khamenei, je l'ai écrit dans le livre que j'ai écrit sur M. Khamenei, chez Gallimard, Ali Khamenei et les larmes de Dieu, l'oncle de M. Khamenei et mon grand-père étaient des proches collaborateurs des révolutionnaires et qui disaient votez pour la constitution des ayatollahs, des grands ayatollahs, parce que vous votez pour votre liberté. Deuxième révolution révolutionnaire, révolution économique, avec feu Mossadegh, héros national pour les Iraniens, qui a nationalisé les sous-sols de l'Iran en 50. Donc, 1906, 1950, révolution anti-royaliste pour une... Encore une fois, pour la démocratie en 1978, qui a été effectivement... dérivé par M. Khomeini, avec l'instauration de quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'islam, le règne du jurisconsulte. Ça n'a, vous voyez, donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, pour revenir à votre question, les Iraniens ne croient plus aux politiques. En revanche... Ils croient beaucoup à la solidarité des peuples. Ce que les jeunes Iraniens sont en train de montrer dans les rues et qui a bouleversé le monde entier, que ça soit en Espagne, que ça soit à Toronto, que ça soit en France, que ça soit les peuples, quand les peuples sont dans la rue pour dire ça, ça compte pour eux. Et j'espère que ça ne va pas se tasser. Parce que ça, vous voyez, c'est les peuples dans les pays européens aussi qui obligeront leur gouvernement à changer d'optique sur les choses. Mais les raisons d'État l'emportent toujours, vous le savez mieux que moi. On ne va pas se raconter d'histoire. Donc, M. Macron, en plus, il pense aux intérêts de son propre peuple. Il a pensé, à tort ou à raison, c'est pas le sujet ici, que peut-être que l'Iran, deuxième réserve du gaz mondial, pourrait peut-être les sortir de cette impasse en ce moment avec l'Ukraine.
Non, mais on n'est pas naïf. Hein. On sait très bien que les enjeux de business dans les relations géopolitiques comptent plus que les droits de l'homme en réalité. Donc, ça a toujours été le cas. Et même pour un grand pays comme la France, comme le nôtre, qui sommes à l'initiative effectivement de la charte des droits de l'homme et du citoyen, c'est les intérêts business. On a en ligne un imam. Je tenais à ce que dans ce débat, on ait un imam. Et Ben Imam, d'ailleurs, que l'on connaît très bien sur Beurre FM, puisqu'il s'agit de Abdel Ali Mamoun, qui est imam et qui officie à la Grande Mosquée de Paris, qui a écrit un ouvrage, L'Islam contre le radicalisme, aux éditions du CERF. Je souhaitais que nous ayons un imam, parce que moi, je trouve quand même qu'on a certains esprits malsains qui profitent de, je dirais, de ce soulèvement du peuple iranien contre l'oppression et le manque de liberté pour attaquer l'islam, pour attaquer la religion musulmane, pour attaquer aussi le libre choix en France des femmes de porter le voile ou de ne pas le porter. Donc, et je voulais qu'on ait un imam pour que vous puissiez nous rappeler d'abord deux choses. La première chose pour nos auditeurs, parce qu'il faut parler au nombre le plus important possible d'auditeurs, de la différence entre les chiites et les sunnites, monsieur l'imam, cher Abdel Ali Mamoun. Et le deuxième sujet, c'est une religion d'État telle qu'on l'a en Iran, qui s'imposerait dans l'irrespect total de la liberté de conscience, du choix de chacune et de chacun, donc à appliquer ou pas les préceptes d'une religion. Là, en l'occurrence, c'est de l'islam dont il s'agit, enfin d'une vision de l'islam. Parce que moi, je considère que l'islam est une religion de tolérance, d'ouverture et de paix. Et c'est pas ce que nous démontrent aujourd'hui ceux qui imposent aux femmes iraniennes le port du foulard. Sur ces deux sujets, monsieur l'imam, cher Abdel Ali Mamoun, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Alors bonjour à toi Karim d'abord, et à tous tes invités sur le plateau, et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent sur Beurre FM.
Chiite, sunnite,
simplement, tu alors, peux nous, rentrons. Ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est que cette révolution iranienne est une révolution qui a spolié l'islam de la main des dieux, de Dieu d'abord, ensuite qui l'a imposé aux mains et qui l'a mis dans les mains d'un islam des moulas, d'un islam d'un clergé islamique humain, et qui bien entendu se transforme en un islam politique. C'était exactement la définition de l'islam radical que nous condamnons depuis des décennies. Donc cet islam, bien entendu, il faut y mettre fin, puisqu'elle va en contradiction avec les préceptes et les références scripturaires de notre religion, que sont le Coran et la tradition, qui disent tout simplement non contrainte en religion, et d'autres versets qui disent tu ne guideras pas qui tu aimes, et c'est Dieu qui guide qui il veut, et c'est chacun d'entre nous est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Sinon, à quoi bon le libre arbitre? À quoi bon l'examen divin si c'est une autorité qui impose la pratique religion aux citoyens? Comment je pourrais être jugé le jour du mois dernier si on m'a imposé une pratique? Donc ça n'a aucun sens.
Donc c'est contradictoire. Un instant, Abdelali. C'est contradictoire avec le message originel de la religion musulmane, de l'islam, que de vouloir imposer à tous des préceptes dans une communauté nationale, quelle qu'elle soit.
Tout à fait. Il doit y avoir le libre arbitre. Sinon, l'examen, il sert à quoi? On parle de la vie d'ici-bas comme étant un examen dans lequel l'homme a le choix de faire le bien et le mal, de choisir entre obéir à Dieu ou ne pas obéir. Et sinon, à quoi bon s'il y a une autorité qui vient imposer les règles de Dieu, du moins entre guillemets, hein, parce que là, il faut encore voir si c'est effectivement les règles de Dieu ou ce sont leurs règles à eux qu'ils imposent, hein, des règles phallocrates, patriarcales, misogynes, etc. Et j'en passais des meilleurs.
D'accord. La différence, Abdel Ali, entre les chiites et les sunnites, d'où vient cette distinction pour nos auditeurs?
Tout simplement, c'est que nous, sunnites, nous considérons que tous les humains sont faillibles, sont vulnérables, peuvent se tromper, et qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de ce qu'on appelle d'épiscopat, c'est-à-dire d'autorité représentante de Dieu sur terre, de vicaire qui aurait un pouvoir divin, qui aurait été légué à des individus. Par exemple, l'expression Ayatollah, ça veut dire signe de Dieu. Ça veut dire que le Ayatollah serait lui, sa personne, un être sacré dont les mots et les actes seraient infaillibles et émaneraient directement d'une inspiration divine. Ce qui est totalement absurde, que de vouloir prétendre ce genre de choses, alors que cette réalité-là théologique est réservée à la personne du prophète Mohammed, qui est un prophète, qui a reçu la révélation, et qui, malgré qu'il soit prophète, il y a eu des circonstances et des réalités dans la vie du prophète humaine où il a pu faire des mauvais choix.
Abdelali, vous entendez la musique de fond. Une dernière question. Vous qui êtes imam dans les mosquées, vous sentez une solidarité des musulmans de France avec les femmes iraniennes aujourd'hui ?
Bah écoutez, pas énormément. Ils ne se sentent pas trop concernés parce que l'islam musulman en France, c'est un islam sunnite à 99%. Et puis la population n'est pas une population d'origine iranienne. La présence iranienne en France est extrêmement réduite. Et en plus, ce sont des Iraniens chiites qui ne fréquentent pas les mosquées sunnites, qui sont, comme je le répète, une grande majoritairement, pour vous dire, 2600 mosquées sunnites en France. Et il y a deux mosquées chiites en France.
Ah oui, ouais, effectivement.
Deux mosquées dans tout le territoire français.
Effectivement.
Donc vous voyez, c'est totalement. Donc on n'est pas trop. On se sent pas trop concerné.
Merci Abdelali Mahmoud.
Voilà.
Le drame c'est là, monsieur.
Merci Abdelali Mahmoud de nous rappeler que tout cela n'est pas en cohérence avec le message de l'islam. Donc c'est important aussi de le rappeler parce que certains s'engouffrent pour expliquer effectivement que tout le mal qu'ils peuvent penser de la religion musulmane. Nouvelle pause et on revient pour poursuivre le débat avec mes invités en plateau.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Alors on a le débat sur les femmes en Iran qui nous fait ressentir ce qu'on a ressenti aussi sur le débat des retraites, c'est-à-dire que le temps passe trop vite. Et ben oui, je suis désolé de vous le dire, mais là aussi, on va revenir dans une prochaine émission. Et s'il faut passer une heure et demie, on passera une heure et demie parce que il y a des avis contradictoires. Et d'ailleurs, Fariba Achroubi, vous vouliez réagir sur les propos de l'imam avec lequel vous n'étiez pas d'accord.
Je crois que Monsieur l'imam ne connaît absolument pas le chiisme. S'il parle de la déviance des ayatollahs khoméniste, c'est-à-dire effectivement la religion d'État, ce n'est absolument pas l'âme du chiisme et tous les ayatollahs ne sont pas ce que dit monsieur l'imam. Et d'ailleurs, c'est le chiisme qui permet la révision du Coran et qui permet effectivement que le Coran soit en accordance avec son temps. Moi, je vois pas ça dans le sunnisme, et surtout quand je vois malheureusement les déviances ces dernières années des salafistes, etc. Ça ne vient pas du chiisme. Hein. Le chiisme, effectivement, a ses torts, le chiisme de la religion de l'État. Mais hélas, moi, je veux bien avoir je veux répondre à Monsieur l'imam sur pas en tant que théologienne, mais en tant qu'effectivement quelqu'un qui, grâce au livre que j'ai la commande d'Éric Pognier, je me suis penché sur l'histoire du chiisme. Il y a des merveilles dans l'histoire du chiisme que le monde ne connaît pas.
Merci Fariba. De toute manière, on n'a pas vocation à opposer le sunnisme et le chiisme. Je pense que des déviances, il y en a partout, dans toutes les religions et dans ces deux courants de l'islam. Donc,
Karim, la grande gnostique du monde vient du chiisme.
L'imam n'est pas là pour vous répondre. Donc, mais en tout cas, on a souhaité effectivement que vous puissiez dire ce que vous pensez de son intervention. Charles, dans les prochains jours, les prochaines semaines, la communauté iranienne de France, avec laquelle tu manifestes toutes ces semaines, comment va-t-elle s'organiser? Elle va poursuivre les manifestations?
Nous allons poursuivre les manifestations pour pouvoir démontrer à tout le monde femme, vie, liberté. Nous serons dans la rue pour manifester dimanche prochain. J'invite à tout le monde de nous rejoindre pour crier ce slogan.
À quel endroit?
À République, à partir de 15h dimanche. Pour venir crier ce slogan et démontrer qu'aujourd'hui, les femmes vont être libres dans le monde pour pouvoir vivre en Iran tranquillement. Tous les pays du monde se réunissent tous les week-ends, que ce soit à Los Angeles, en Italie, à Londres, partout, pour pouvoir demander les femmes libres en Iran, car il faut qu'ils soient libres de pouvoir s'exprimer, se balader dans la rue. Nous avons fait un poème avec le prince des poètes qui s'appelle Abad, qui est en spectacle la semaine prochaine dans un théâtre dans le 15e, qui a créé un magnifique poème qui va être récité pour la liberté de la femme. Je vous donne le théâtre, vous pourrez l'écouter. C'est à 40 rue Mottier, Ringis, 75 015, au Métâtre, théâtre ligne 11. Merci, je vous remercie.
Charles, merci. En tout cas, vous avez donné rendez-vous pour une solidarité des peuples avec le peuple iranien. Donc, on en reparlera sur l'antenne de Beurre FM parce que je pense que cette révolution est loin d'être terminée. Et il faut que nous soyons en solidarité permanente avec les femmes et les hommes qui manifestent en Iran aujourd'hui. La personnalité de la semaine, c'est notre dernière rubrique.
La personnalité de la semaine.
Fodil, la personnalité de la semaine... C'est qui cette semaine?
Eh ben, cette semaine, je vous emmène en région parisienne pour vous présenter Amel Kadhi d'origine marocaine. C'est l'histoire d'un enfant tout sourire, tout bonheur qui voit le jour dans le Val-de-Marne au sein d'une famille modeste. Amel, c'est l'histoire d'une fille qui vit comme elle respire dans l'insouciance de ces années où tout semble normal, où l'amour qu'elle porte à ses parents couvre leur corps d'or et de lumière. Fierté de sa mère, elle la regarde grandir, fixer ses objectifs pour faire de ses éclats de rire des souvenirs à jamais gravés dans son cœur. Enfance heureuse d'une petite fille qui fait face aux difficultés de la vie. Dès son jeune âge, va malgré tout devenir une jeune femme épanouie. À l'âge de 19 ans, elle rate son bac malheureusement suite à une grossesse et ses rêves d'intégrer le monde de l'aviation ne s'envolent pas pour autant. Elle commence sa carrière comme femme de ménage au sein de plusieurs aéroports parisiens avant d'enchaîner une autre expérience en tant qu'agent de sûreté aéroportuaire. Au gré de beaucoup d'efforts, elle promet... Agent d'escale, travailleuse acharnée, audacieuse, Amel obtient son permis D et conduit des navettes sur le tarmac des aéroports parisiens. Suite à ça, elle passe une formation en tant qu'avitailleuse d'avion, symbole de persévérance et de travail. Elle obtient 2 ans plus tard une licence en aéronautique pour devenir mécanicien d'avion, un parcours atypique qui, par le travail, lui a permis de réaliser son rêve et d'intégrer le monde de l'aviation en commençant en tout bas de l'échelle. Elle occupe actuellement 2 postes en tant qu'avitailleuse et mécanicien d'avion dans plusieurs aéroports en France. Alors, pour résumer, mais en quelques lignes, le parcours d'Amel, j'ai emprunté une phrase au poète, essayiste, biographe, traducteur et éditeur britannique Samuel Johnson. Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent. Les grandes œuvres jaillissent non de la force, mais par la persévérance, mon cher Karim.
Merci, Fodil. Magnifique portrait encore cette semaine. Bonjour, Amel.
Bonjour.
Amel Kadhi, vous avez un portrait qui a été dressé par Fodil et clairement vous évoluez en tant que femme dans un milieu, je peux le dire, qui est quasiment un milieu d'hommes.
On peut dire ça comme ça, oui.
Vous avez été, je crois, la première à occuper la responsabilité qui a été la vôtre en tant que mécanicienne dans l'aérien.
Plutôt dans l'avitaillement, oui, l'une des premières femmes à faire ça, oui.
Et alors, dites-nous un petit peu votre quotidien, il est facile au milieu de tous ces hommes ou pas?
Non, c'est pas toujours évident, mais bon, après, on perd pas son objectif.
C'était un rêve pour vous d'évoluer dans l'aviation, dans le monde aérien?
Oui, tout à fait.
Mais ce rêve est venu depuis que vous êtes petite ou c'est parce que vous avez des liens de famille avec ce milieu et cette activité?
Alors, depuis que je suis petite, déjà parce que j'habite dans la ville d'Orly, donc après, à force de voir les avions, disons que ça m'a donné l'idée assez rapidement, enfin, assez jeune.
D'accord. Et là, votre déroulement de carrière, c'est quoi? Vous allez être mécanicienne jusqu'à la fin de votre parcours? Vous voulez évoluer? Vous avez quelles aspirations aujourd'hui?
Non, j'aspire quand même à évoluer encore. Après, je n'ai pas encore d'autres idées, mais ce ne serait tardé, je pense.
D'accord. Donc, vous poursuivez encore votre évolution dans le milieu aérien, dans le milieu de l'aviation?
Tout à fait.
D'accord, c'est magnifique. Vous avez repris vos études sur le tard, en conciliant aussi votre rôle de maman, comme de nombreuses mères de famille dans notre pays. Ça a été facile ou compliqué de concilier le tout?
Non, pas évident, parce que bon, c'est vrai, quand on a quitté les bancs de l'école depuis longtemps, c'est vrai que le cerveau n'est plus adapté, puis bon, le fait de d'avoir travaillé, puis de reprendre les études derrière, c'est pas forcément évident avec les responsabilités qu'on a à subir, quoi.
Faut-il parler de persévérance dans votre parcours? Vous pensez que c'est une des qualités premières dont vous avez dû faire preuve?
Oui, bien sûr. Après, c'est comme tout. Bien sûr, il faut persévérer.
Et si vous aviez un message à faire passer aux jeunes filles, aux adolescentes qui aujourd'hui cherchent leur voie et imaginent un avenir professionnel, qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes filles?
Qu'il faut y aller. Enfin, il n'y a pas de barrière à se mettre, en fait. Il faut y aller.
Donc, c'est le monde de tous les possibles.
Exactement.
Juste avant, on parlait des femmes en Iran. C'est un sujet qui vous tient à cœur?
Tout à fait, oui.
Dites-nous un petit peu plus, parce que j'ai le sentiment qu'il faut...
C'est qu'en 2022, on soit toujours encore en train de... Enfin, il y a toujours, en fait, une barrière entre l'homme et la femme, alors que, bon, on a quand même besoin de... En tant que femme, on a besoin d'hommes, et enfin, pour les hommes, je pense qu'on a besoin des femmes, sinon, je pense qu'ils seraient pas là, tout simplement, pour en parler. Et c'est vrai que, à la longue, c'est un peu fatigant d'entendre toujours les mêmes sujets, entre guillemets.
En tout cas, heureusement qu'il y a des femmes comme vous et d'autres de plus en plus nombreuses pour occuper des postes à responsabilité et démontrer effectivement que cette égalité, elle n'est pas vaine, c'est pas une promesse d'être une réalité, que les femmes, les hommes, arrêtons ces différences de genre. Place à la compétence, place à la méritocratie, place au charisme des uns et des autres, quels que soient les postes que l'on doit occuper. Merci Amel pour ce fabuleux parcours. Belle continuation à vous.
Merci beaucoup.
À bientôt. Bye bye.
Au revoir.
On termine notre émission. Encore une émission qui est passée trop vite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour deux débats. Et qui sait, en fonction de ce que vous allez nous dire sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'on fera un débat qui durera une heure et demie ou deux heures. C'est vous qui décidez. C'est votre émission, les engagés. À bientôt.
Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.